Une heure en France. Denis Farrou. Frédéric Le Ternier.
Bonjour à vous tous et bienvenue chez nous pour partager nos découvertes. Bonjour Denis Farrou.
Bonjour Frédéric Le Ternier. Et quelle découverte ce midi.
Vous pensez à l'expo qui présente les aliments les plus répugnants, les plus dégueux, mais dont certains pays raffolent. Et c'est à Nantes que ça se passe. Nous allons aussi arpenter le potager d'un château du Val d'Oise à l'occasion de l'opération Jardin Ouvert en Île-de-France ce week-end. Et puis nous vous racontons l'histoire incroyable d'un portefeuille retrouvé 86 ans après sa disparition à Nancy. Sinon, si j'ai mal à la tête, je fais quoi ?
Vous demandez aux pharmaciens, Frédéric. Les aspirines paracétamol ou ibuprofène ne seront sans doute bientôt plus vendues en libre-service dans les pharmacies. Le président du syndicat des pharmaciens nous attend dans le département de l'Aude et nous aussi, on veut son avis.
Et on commence avec elle. Les infos du jour, c'est avec Simon de Faucompris.
Bonjour Simon.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Elle s'appelait Christine Renon et les enseignants lui rendent hommage aujourd'hui.
Oui, jour d'obsèques pour cette directrice d'école en Seine-Saint-Denis qui a mis fin à ses jours la semaine dernière. Elle se disait épuisée et solitaire. Partout en France, les syndicats d'enseignants appellent à manifester et à fermer des écoles. Ils dénoncent des conditions de travail toujours plus dures, surtout depuis 2 ans et la fin des contrats aidés. Ils doivent alors, ces enseignants, cumuler l'enseignement et des tâches administratives. C'est trop pour Jérôme, directeur d'une école dans l'Hérault.
J'ai l'impression de mal travailler. C'est pas possible de gérer correctement une classe complète, de travailler comme tout un enseignant, et en même temps de travailler dans un bureau, même si on a, en fonction du nombre de classes, une décharge dans la semaine. On n'a pas le temps. On se dit, on est dépassé parce que j'ai pas eu le temps de faire ça. Donc si je veux terminer, ben soit je reste le soir jusqu'à 20h à l'école, soit je viens samedi ou je viens dimanche pour pouvoir terminer ce qu'il y avait dans mon bureau. Donc je me dis, ben voilà, je travaille mal. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Madame Renon. Elle a pensé qu'elle travaillait mal, ce qui peut conduire à un burn-out certains directeurs.
Jérôme qui manifeste avec d'autres devant le rectorat de Montpellier depuis 1 heure.
D'autres rassemblements et fermetures d'écoles sont prévus dans une dizaine de départements aujourd'hui. Par ailleurs, une pétition « Plus jamais ça » a été lancée il y a 2 jours par les syndicats. Elle approche les 90 000 signatures.
Plus de 70 000 litres de lait jetés chaque jour dans la Somme. Après les retombées de suie, de fumée d'hydrocarbures liées à l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, c'était la semaine dernière, 1800 agriculteurs normands et des Hauts-de-France sont touchés et attendent des indemnisations. Les jeunes mineurs sont trop facilement exposés au tabac en France, constate une enquête du Comité national contre le tabagisme publiée ce matin. Vous l'avez feuilleté pour France Bleu, Dominique Azoué.
Premier constat, 40% des bureaux de tabac n'affichent pas l'interdiction de vente aux mineurs. L'enquête montre que 2 buralistes sur 3 vendent du tabac à des jeunes de moins de 17 ans et 1 sur 10 à des enfants de 12 ans. Globalement, moins d'un buraliste sur 5 demande une pièce d'identité aux jeunes pour qu'ils justifient leur âge. La loi est moins bien respectée dans les villes moyennes et grandes. Ainsi, en Île-de-France, plus de 90% des buralistes vendent du tabac aux mineurs. Ils risquent une amende de 135 €. Selon le Comité contre le tabagisme, la plupart des gens fument leur première cigarette vers 13-14 ans. Chaque année, 200 000 jeunes deviennent accros à la nicotine, souligne le comité qui parle d'une épidémie pédiatrique.
Les précisions de Dominique Essouet, la vente de tabac à des mineurs est interdite en France depuis 10 ans. France Bleu, il est 13h03. Les médicaments, ce ne sont pas des bonbons. Hein. Même l'aspirine, le paracétamol et autres ibuprofène qu'on prend parfois sans réfléchir. L'agence du médicament veut abolir leur usage en libre service. Dès 2020, il faudra demander aux pharmaciens, Denis.
Et donc avoir un échange avec le professionnel de santé pour expliquer l'atout ou la douleur afin d'être conseillé sur le bon médicament. Un pharmacien sera avec nous dans un instant. C'est le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
C'est le retour du grand débat à la sauce retraite, le projet d'Emmanuel Macron. Il est attendu, le président, à Rodez ce soir, 18h30, face à 500 riverains. Les questions et les critiques sont nombreuses quant au futur projet de loi retraite. 3 heures d'échange sont prévues. Ça bouge dans l'effectif du 15 de France, Denis.
Après la victoire hier des Bleus contre les Américains, on connaît les joueurs qui seront alignés dimanche matin pour le 3e match de la Coupe du Monde contre les Tonga.
Visiblement, on peut aussi changer une équipe qui gagne, Jérôme Val.
Il y avait eu 12 changements entre l'Argentine et les États-Unis. Cette fois, le staff a opté pour 11 nouveaux joueurs. Ce sont pour la plupart les titulaires vainqueurs de l'Argentine en ouverture de ce mondial. Ils avaient été laissés au repos ou ils étaient sur le banc hier, comme le pilier Jefferson Poirot qui sera capitaine dimanche. La charnière sera composée de Baptiste Serin et Romain Tamac, troisième charnière en 3 matchs pour les Bleus. 11 changements, il y a donc 4 joueurs qui vont enchaîner les deux rencontres. Le talonneur Camicha, le deuxième ligne Paul Gabriag, l'ailier Alivéry Tiraca et le trois quarts centre Sofiane Guitoun. Mais il ne devrait pas disputer l'intégralité de la rencontre, le laps de temps entre ces deux rendez-vous étant trop court. Petite particularité de cette composition, on ne connaît pas le nom des remplaçants. Ils seront annoncés demain à la mi-journée, ici au Japon, par le sélectionneur qui attend sans doute le dernier moment pour faire le point sur les bobos d'hier.
France, Tonga, c'est dimanche matin à 9h40. Et dans 9 jours, dernier match de groupe contre l'Angleterre.
Vous avez dit 9h45 dimanche.
C'est cela.
Voilà, c'est pour l'organisation du week-end.
En football, il reste une heure avant l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Les 23 bleus qui joueront contre l'Islande et la Turquie en octobre pour les qualifications à l'Euro 2020. Ce soir, c'est deux clubs français qu'on va suivre et supporter dans leur parcours européen. Saint-Etienne contre Wolfsburg à 19h et Rennes-Lazio à 21h avec de chaque côté l'espoir de ramener une première victoire cette saison en Ligue Europa.
On espère ce soir une première médaille d'or tricolore aux Mondiaux d'athlétisme de Doha. Kevin Mayer, champion du monde en titre de décathlon, est actuellement troisième à mi-chemin.
Ouais, il reste 5 épreuves aujourd'hui à suivre dès 15h35 sur France 3. Le 110 mètres haies, le disque, la perche, le javelot et le 1500 mètres. Allez Kevin. La météo, on va profiter d'un temps sec et du soleil encore aujourd'hui en France. Il est franc dans les terres, le soleil plus voilé sur le flanc est. Quelques gouttes déjà sur la pointe bretonne annoncent d'une perturbation qui va progresser sur le pays en soirée.
13 degrés à Lens, c'est le coin le plus frais de France cet après-midi. 14 à la Roche-Guyon dans le Val d'Oise où nous allons visiter le potager du château tout à l'heure. 15 à Cherbourg et à Guéret, 18 à Grenoble, 19 à Bayonne. Bon après-midi Simon.
À vous aussi, à bientôt.
On entre dans une pharmacie dans une minute.
Francebleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr. France Bleu aime M Pokora.
Quand je danse, quand tu danses, des planètes tournent tout autour. Pardonne-moi l'indifférence, je reviendrai au lever du jour. Ta peau contre ma peau. Ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo. Laisse ta peau contre ma peau. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie?
Les planètes, M. Pokora, un coup de cœur France Bleu.
Est-ce que vous avez déjà acheté de l'aspirine, du Doliprane ou du Nurofen en libre service dans une pharmacie? Ce ne sera sans doute bientôt plus le cas, il faudra demander aux pharmaciens. Bonjour Philippe Bessé.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et pharmacien dans l'Aude à Limoux. Vous pensez qu'il vaut mieux demander conseil avant d'acheter, même pour du Doliprane?
Oui, c'est une bonne idée que l'agence a eue. Nous avons un combat permanent, les pharmaciens, vous savez, les pharmaciens, c'est les gardiens des poisons. Donc nous avons un combat permanent pour éviter la banalisation du médicament. Il y a eu des accidents graves avec le paracétamol, avec l'ibuprofène notamment, plus à l'étranger qu'en France, mais quand même. Nous avions déjà prévenu et nous sommes vraiment très satisfaits que l'Agence nationale de sécurité du médicament prennent cette voie qui permet aux patients d'avoir le produit, il est disponible, il n'y aura pas besoin de passer par la case médecin pour obtenir le médicament, mais au moins il se sera l'occasion d'avoir une ou deux questions préalables et une ou deux explications. On ne veut pas être intrusif dans la vie des gens, mais ce n'est pas un produit banal, le médicament.
Ouais, c'est vrai que nous ne faisons pas tous la différence entre de l'aspirine, du paracétamol ou de l'ibuprofène.
Bah, c'est vous qui me le dites, mais moi je sais. De mon expérience de comptoir et de ce que mes confrères voient au quotidien, nous avons, vous savez, une population très diverse en France. Des gens très formés, des gens très bien éduqués, des gens qui, pour lesquels les technologies de l'information n'ont pas de secret, et d'autres qui ont besoin d'assurance, ont besoin de réassurance, et il est difficile de faire de voir à quelle catégorie appartient une personne simplement quand elle rentre à l'officine. Donc ça nécessite une ou deux questions simples pour que le produit soit bien utilisé.
C'est-à-dire que si j'ai une toux, une douleur quelconque, il est important d'avoir le bon médicament. Cela dit, ça paraît logique.
Eh ben, vous voyez, c'est très bien ce que vous me posez comme question, parce que si vous avez une toux, aucun des médicaments dont on vient de parler n'a d'intérêt absolument.
Donc, voilà.
Il n'y a aucun intérêt pour la toux de prendre ni du paracétamol, ni de l'ibuprofène, ni de l'aspirine. Ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas le médicament adapté. Donc, c'est simplement une question en me disant, vous auriez pris votre boîte de paracétamol en libre accès. Vous seriez venu en me disant je veux une boîte de paracétamol, je veux l'acheter. La question pourquoi est nécessaire. C'est voilà. Si vous me dites c'est pour la toux, je dis ah bon, mais c'est tout parce que c'est pas ça qu'il vous faut.
Les médicaments en libre service, si je me rappelle bien, c'était pour que le consommateur puisse aussi comparer les prix. C'est vrai que quand on est à la caisse, on ne négocie pas le prix d'une boîte.
C'est vrai. Alors c'est vrai aussi que on ne négocie pas le prix d'une boîte hein, non plus quand il est au comptoir pour une raison majeure, c'est que ce prix est bas. On parle de produits qui sont entre 2 et 3 euros. C'est pas des produits qui ont un coût très important. Par ailleurs, l'obligation d'affichage du prix reste. C'est-à-dire que si le pharmacien est obligé de mettre dans son espace de vente et en linéaire s'il a le produit derrière lui le prix pour que le patient puisse le connaître. Mais comme vous avez beaucoup d'auditeurs ici à France Bleu, je peux déjà le dire à tout le monde, c'est entre 2 et 3 euros.
Très bien. Une dernière chose, Philippe Bessé, il était question d'une mention très claire sur les boîtes de Doliprane par exemple, surdosage égale danger. Ça aurait été intéressant ce genre de choses aussi.
Alors ils vont mettre les deux mesures l'un exclut pas l'autre. Je pense qu'il y aura le pictogramme également.
D'accord. En fait. Alors on attend. Le paracétamol, voilà. L'ibuprofène ou l'aspirine retirés sans doute des rayons libre service en pharmacie. Je dis en principe parce que ce n'est pas complètement acté, mais ça devrait intervenir dès le 1er janvier. Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, je vous souhaite une bonne journée à Limoux.
Bonne journée à vous.
Merci. Voilà la suite d'Une Heure en France.
Une Heure en France. Denis Farroux. Frédéric Le Ternier.
Et aujourd'hui, on va profiter de l'opération Jardin ouvert en Île-de-France pour visiter le superbe château de la Roche-Guyon.
Le château et son potager avec ses jardins ouverts. 200 jardins sont à visiter ce week-end dans la région Île-de-France.
Alors ensuite, on file à Nantes pour découvrir une expo qui nous vient de Suède qui présente 80 des aliments les plus dégoûtants au monde.
Alors pour faire passer la soupe de rongeur, nous aurons la liqueur de glande anale de castor. Tout est vrai et se mange dans certaines régions du globe. On a bien des fromages délicieux qui ne sont pas bons, nous. Bonne dégustation, madame, monsieur.
Et puis on termine avec une rocambolesque histoire de portefeuille perdu et retrouvé 86 ans après à Nancy.
C'est notre période perdue-retrouvée.
Oui, c'est vrai.
Après un tableau réapparu miraculeusement dans une église normande, voilà un portefeuille retrouvé dans une bibliothèque.
Tout ça, c'est dans Une Heure en France, jusqu'à 14h. Très très bon début d'après-midi à vous. Et ça se poursuit avec Daniel Balavoine, mon fils, ma bataille sur France Bleu à 13h14.
Ça fait longtemps que t'es parti, maintenant je t'écoute démonter ma vie en pleurant. Si j'avais su qu'un matin je serais la salie, jugée sur un banc par l'ombre d'un corps que j'ai serré si souvent. Un enfant. Oh, tu leur dis que mon métier, c'est du vent. Qu'on ne
sens a des torts que rien ne défend. C'est mon enfant.
Vous connaissez ce titre évidemment, Mon fils, ma bataille, c'était Daniel Balavoine à 13h17.
Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Et je ne peux pas vous raconter à quel point on parle de ce sujet depuis des jours avec l'équipe du Nord en France.
Surtout vous, Frédéric.
Non, tout le monde. Il y a une exposition très originale, donc forcément on a eu envie de vous en parler à vous aussi. Elle vient de Malmö en Suède, ça vient du Disgusting Food Museum. Et cette expo, elle pose ses valises à Nantes dans le cadre des tables de Nantes, c'est jusqu'au 3 novembre. Et elle présente quoi, Denis ?
80 des aliments réputés les plus dégoûtants au monde en guise de ticket d'entrée. Je sais pas si je le dis.
Dites-le !
On vous donne un sac à vomi.
Ça me fait rire. Allez, c'est parti, posez les couverts hein, si vous êtes à table. On va faire la visite avec le chargé de production culinaire du Voyage à Nantes et organisateur des tables de Nantes. Bonjour Richard Bosset.
Bonjour.
Pourquoi avoir voulu accueillir cette exposition ? Est-ce que c'était pour montrer que la nourriture, c'est culturel en fait ?
C'est bien ça, effectivement, comme vous l'évoquiez. Cette exposition, elle est venue ouvrir et puis donc prolonger, je dirais, un événement donc, qui s'appelle l'étape de Nantes et qui à la fois célèbre la gastronomie nantaise d'aujourd'hui, mais aussi s'interroge sur nos assiettes d'aujourd'hui et de demain. Donc cette exposition, à notre sens, pose bien déjà quelques questions fondamentales sur notre rapport à l'alimentation.
Alors, il y a du requin vieilli, c'est un plat islandais, du fromage infesté de mouches, ça c'est une spécialité sarde, du cochon d'Inde rôti, c'est péruvien. Cela dit, nous, on a bien des fromages qui ne sentent pas très bons et qui sont délicieux.
Exactement, c'est ça qui est intéressant avec cette exposition, d'autant plus que le commissariat, donc c'est des Suédois, hein, donc ils n'ont pas, ils ont un regard relativement neutre sur la France. Mmh. Et c'est ce qui est intéressant par contre pour nous Français, c'est aussi de regarder notre alimentation et de se dire qu'en matière de dégoût à l'échelle monde, on est, à mon sens, sur le podium, largement. Hein.
Vous avez des exemples ?
Bah oui, parce que, donc vous l'évoquiez, on a certains plats, on a les escargots, les cuisses de grenouille, on a des fromages qui sont très puissants, on a le foie gras, donc pour ce qui est présenté dans l'exposition. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un visitorat qui vient du monde entier, et je discutais avec des Chinois qui regardaient les plats que nous on présente pour être dégoûtants chez eux, et je disais non, effectivement, les œufs cuits dans l'urine de jeunes enfants ou les œufs de 100 ans ou encore d'autres préparations de ce type là qui sont présentées, bah oui, c'est bon, c'est consommé, on voit pas le problème. Par contre, vos fromages, ils sentent vraiment pas bon.
Ah bah d'accord. Et alors vous nous présentez du coup, Richard Bosset, quelques spécialités dégueu de l'exposition. On a cité quelques-unes, mais on veut quand même savoir ce qu'il reste.
Ah ben il en reste pas mal, hein, ça c'est sûr.
Il y a des insectes aussi, des choses comme ça. Ouais, ouais.
Des insectes, bien sûr. Alors là, il y a une bonne diversité. Cette exposition, en fait, elle est présentée sous forme donc de voyages tour du monde, et on passe de continent en continent. Donc effectivement, il y a ces insectes qui sont plutôt présents donc en Asie. Mmh. en Afrique. En Europe, on a pas mal de choses. Vous aviez évoqué le requin, en fait, pas vieilli, certes, mais fermenté, surtout.
Ah, donc, décomposé, quoi.
voilà. Nos amis suédois qui, par ailleurs, proposent aussi cet alcool de gland anal de castor, qui est aussi fameux. Après, du côté des Amériques, effectivement, les testicules de taureaux qui sont assez impressionnantes dès l'entrée de l'exposition.
Les États-Unis mangent ça.
Oui, on en trouve effectivement des. C'est un mets apparemment assez imposant, ouais. C'est ce qu'on voit. Et puis, il y a plusieurs préparations qui peuvent être industrielles, mais dégoûtantes. Ouais.
Richard Bosset, vous avez aussi du durian thaïlandais, ce fruit qui pue, il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, en Thaïlande, on n'a pas le droit de monter dans un avion avec un durian et de monter dans un ascenseur parce que l'odeur s'imprègne. Est-ce qu'on peut goûter certaines de ces spécialités à Nantes ?
Effectivement, c'est une exposition qui fait appel à pas mal de nos sens. Hein. On peut toucher un certain nombre de ces ingrédients, on peut les en sentir, en goûter quelques-uns. L'entrée de l'exposition est gratuite. En revanche, on a proposé, donc pour un petit tarif de 3 € aux visiteurs les plus curieux, de poursuivre l'expérience et de goûter une petite dizaine de plats, enfin en tout cas de propositions de cette expo.
Frédéric vient de lever la main, je crois qu'elle veut passer commande d'un plat.
Non, je veux pas, surtout pas goûter, mais je voulais poser une question. Comment le vivent les gens? Comment ils réagissent? C'est les plus courageux? Est-ce qu'ils sont dégoûtés ou est-ce qu'ils sont curieux?
Voilà, c'est la curiosité. Non, c'est génial, hein, pour en discuter avec notre équipe de médiation. Les retours sont très enthousiastes, enfin, parce que c'est quand même très pointu en même temps comme sélection. Et puis, ça interroge un peu au plus profond ce rapport à l'alimentation, à notre vécu, à notre histoire aussi. On a beaucoup de gens qui nous font part de ce qu'ils mangeaient avec la grand-mère au fin fond de telle région, ou là encore de touristes étrangers qui nous évoquent les spécialités de leur pays. Donc c'est vraiment très intéressant, interactif. Et puis des fois on peut être surpris. Par exemple, je vous évoquais les œufs de 100 ans. Bon, c'est vrai que quand on le voit comme ça, ça donne vraiment pas envie. Et finalement, c'est pas si mauvais que ça. J'ai goûté beaucoup de choses, évidemment. Ouais.
Il y a aussi du jus de mouton cuisiné avec des globes oculaires, c'est une spécialité mongole. Bon.
J'ai envie de demander à Richard Bosset, qu'est-ce qui vous dégoûte le plus? Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de tester, vous, de cette exposition?
Vous avez le droit de nous le dire. Hein.
Ouais, bien sûr, c'est gentil. J'ai testé beaucoup de choses. Après, c'est vrai que et l'alcool de souriceau et cette espèce de margarita avec un œil de mouton pour la texture, ça me branche pas trop.
Belle image.
Pour le moment, je l'ai évité.
On l'a bien vu.
En tout cas, c'est vraiment, vraiment insolite comme exposition. On sent que ça doit attirer beaucoup de gens. Ça donne envie de venir. On ne sait pas pourquoi, Richard Bosset, mais on a envie de découvrir à Nantes. C'est jusqu'au 3 novembre.
Exactement. Voilà, jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint.
Le Disgusting Food Museum fait escale à Nantes.
Merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui, Richard Bosset.
Merci.
Et bon appétit.
Merci.
À bientôt. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Et nous jouons pour une station météo France Bleu qui est magnifique, qui vous attend. Dites-nous de quelle partie du monde nous vient le fromage avec des mouches, des vers au départ, des mouches ensuite, dont nous parlait Denis Farou il y a quelques instants.
Ah oui, le fromage infesté de mouches.
Voilà, le Kassou Marsou, ça vient d'où à votre avis? Kassou Marsou, j'espère que je le prononce bien. 0810 055 056, il y a une station météo France Bleu à remporter, puis vous restez bien avec nous, on va vous parler d'un portefeuille, retrouver une sacrée histoire. Ce sera après Ed Sheeran, I Don't Care, sur France Bleu à 13h25. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you, you make it better like that. Don't think I fit in at this party, everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with
We at a party we don't wanna be at. Turn it up, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy, cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in, I said I'm sorry. But now I think that we should stay. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. It's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby, yeah. Cause I don't care, don't care when I'm with my baby, yeah. Oh, yeah. All the bad things disappear. Disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Maybe I'm somebody.
Justin Bieber, sacré duo avec I Don't Care. Autant vous dire qu'ils s'en fichent complètement. C'est sur France Bleu à 13h28 pour accueillir Josiane. Bonjour Josiane.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes en Ardèche, Josiane.
C'est ça.
Où ça en Ardèche?
À Aubenas.
Et il fait beau aujourd'hui à Aubenas.
Oui, il fait très beau. Comment mais seulement il y a du vent frais.
Bah parce qu'on a donné la météo de toute la France.
Non mais comment vous savez ça? Non, vous êtes partout, vous avez tous les pouvoirs, vous deux. Josiane, bah tiens, justement, on jouait pour une station météo France Bleu. C'est dégoûtant cette exposition à Nantes, non?
Ah oui, ah, j'irai pas.
Vous irez pas, vous, hein, Josiane? Non. Un petit sac à vomi en entrée pour être bien...
Non, même pas.
Okay. Alors, je vous demandais de quelle partie du monde nous vient le fromage avec des vers d'abord et des mouches ensuite, qui s'appelle le Casu Marzu.
Oui, c'est le pays, la Sardaigne.
Exactement. Vous en avez déjà goûté, Josiane?
Non.
Nous non plus.
Mes parents, ils sont en Sarde, mais j'en ai pas goûté.
Ah, vos parents sont sardes, d'accord.
Ou alors j'en ai goûté, mais je m'en
sans le savoir.
Pas. Voilà.
Très bien. Mais écoutez, on vous envoie la station météo France Bleu. On vous fait un énorme bisou, Josiane. Merci d'avoir joué avec nous.
Merci à tous les deux.
À bientôt. Bon après-midi en Ardèche sous le soleil mais le vent froid.
Voilà. Merci.
À bientôt. Au revoir, Josiane.
Bonne journée.
Au revoir. Restez avec nous une heure en France. Ça continue. On va aller se balader dans le Val d'Oise du côté du château de la Roche-Guyon et on va vous parler d'un portefeuille retrouvé. Ce sera après M6 Solar.
France Bleu.
S'il suffisait.
Céline Dion. La voix. Les succès. L'attente est terminée. Courage. La tournée mondiale de Céline Dion avec France Bleu à Paris La Défense Arena les 26, 27, 30 juin et 1er juillet. Réservation dès le 9 octobre dans les points de vente habituels. Céline Dion en concert France Bleu avec M6 et BFM TV. Plus d'infos sur francebleu.fr.
francebleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr. France Bleu M, Shawn Mendes et Camila Cabello. Señorita, Shawn Mendes et Camila Cabello, un coup de cœur France Bleu.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessein. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur, la rivière sans retour d'Otto Preminger. Tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc, oncle Sam me doute. Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il souhaite des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche cheveux se part sous, des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les States sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien le mal, le Kulik et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresne, pour que Fresne le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western moderne. Le nouveau western moderne. Le nouveau western. Sitting Bull, Cauchy, Calamity Jane,
Jane. Précurseur du rap français, vous avez reconnu sa voix évidemment, M6 Solar. Et c'était le nouveau western sur France Bleu.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
200 des plus beaux jardins d'Île-de-France ouvrent leurs portes au public le week-end prochain.
Des jardins patrimoniaux, des jardins potagers, des jardins partagés, mais aussi des jardins pédagogiques. On a le choix.
Et nous vous proposons de découvrir le jardin du château de la Roche-Guyon dans un méandre de la Seine du Val d'Oise avec la directrice du château. Bonjour Marie-Laure Adjé.
Bonjour.
De quand date le château et le potager du château ?
Alors ça, ce sont deux questions difficiles. De quand date le château ? Les premières traces écrites datent du 9e siècle, mais le plus vieux vestige du château est évidemment son donjon, qui date, lui, du 12e siècle. Quant au potager, il a été initié au 17e, mais vraiment créé au 18e, et puis il avait disparu au fil des siècles, et donc il a été entièrement recréé en 2004.
Et quelle est l'histoire du château ? Tourmenté sans doute, il a eu beaucoup de remaniements.
Alors, c'est un château qui a donc une longue histoire puisqu'elle remonte au XIIe siècle et donc forcément beaucoup de remaniements, architecturaux. Au Moyen-Âge, on commence à raser la falaise pour construire un jardin d'agrément au pied du donjon puisque le donjon est en haut de la falaise. Et puis ce château qu'on appelle le château du Bas est modifié un peu au fil des siècles. Et puis surtout au 18e, on y ajoute un pavillon qu'on appelle le pavillon d'Anville, du nom de la duchesse qui l'a fait construire. On y ajoute aussi des écuries, un autre pavillon, des communs. Enfin voilà, le grand siècle de modification du château est vraiment le 18e. Et on y ajoute aussi à ce moment-là le théâtre.
Il y a un théâtre dans le château ?
il y a un petit théâtre souterrain et troglodyte qui a été une merveille au XVIIIe siècle, mais vraiment d'une préciosité assez rare. Il était du niveau des grandes salles parisiennes. Il a été construit par la duchesse d'Anville pour ses enfants. Malheureusement, aujourd'hui, il est en ruine, mais on a eu la chance que la Mission Verne pour le patrimoine sélectionne sa restauration. Et donc, non seulement on attend les résultats du loto du patrimoine, mais en plus, on a lancé, au moment des journées du patrimoine, une grande souscription publique pour nous aider à le restaurer.
Bah, vous dites qu'on a des questions difficiles, Marie-Laure Adjé. Vous avez des réponses très, très précises. Alors, à propos du potager, vous avez déjà accueilli Jardin Ouvert. Qu'est-ce que l'on vient voir chez vous, la richesse du potager ou alors de ses fruitiers?
Alors, on vient voir d'abord l'originalité d'un potager historique dans un château d'une très grande famille aristocratique, qui, contrairement à la plupart de ces potagers, n'est pas caché derrière une aile ou à l'arrière du château, mais sous les fenêtres du château. Donc, c'est un jardin aussi bien de production que d'agrément. Et donc, c'est un jardin à la française. Et j'ai l'habitude de dire que c'est un jardin à la française en forme de drapeau anglais, ce qui est assez original. Mais c'est effectivement 4 carrés divisés chacun en 8 triangles. Et donc, quand ce potager a été recréé en 2004, à partir de 2007-2008, on a décidé de le remettre entièrement en culture d'abandonner l'utilisation de produits phytosanitaires. Donc c'est un grand défi dans un navire comme ça. C'est 3,5 hectares, dont 1,5 hectare d'allée sablée. Alors ça, en termes de désherbage, quand on n'a pas de produits chimiques,
c'est du boulot.
C'est un vrai défi. En tout cas, ça l'était en 2007, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on fait ça partout, mais voilà, c'était un vrai défi à l'époque. Et on a 650 arbres fruitiers qui ont été replantés selon un plan de 1741. Donc, on connaissait les variétés. Et puis, il y a aussi du maraîchage et tout ce qu'on peut appeler les petits fruits. Alors, les fraisiers, les groseilliers, les framboisiers.
On s'y voit.
Et puis, utiles aussi.
Marie-Laure Adjé, je sais que Denis est très, très jardin potager, tout ça. Mais moi, j'ai une question quand même avant qu'on se quitte sur un passage secret du château.
Ah oui, alors le passage secret, c'est l'escalier troglodyte qui permet de passer effectivement du château du bas au donjon, qui est ce qu'on appelle parfois le château du haut. Et l'objectif, effectivement, c'était de pouvoir rallier le donjon aussi vite que possible. Et donc, il y a un escalier qui a été entièrement creusé dans la falaise. Alors, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, effectivement. Alors, en ce moment, on ne peut utiliser cet escalier que pour aller jusqu'au pigeonnier, parce que malheureusement, on a des travaux à faire sur le donjon, mais qui vont être lancés d'ici une semaine ou deux. Après ces travaux qui devraient durer quelques semaines, on pourra à nouveau emprunter tout l'escalier troglodyte.
Je peux vous dire, je l'ai vu le château, Denis Farou, vous le dis, il est magnifique ce château de la Roche-Guyon. Allez-y.
Le passage secret, c'est extraordinaire, mais ça nourrit pas son homme comme le potager, voyez-vous Frédéric.
C'est bien de voir l'ensemble.
Jardin ouvert en Île-de-France ce week-end au château de la Roche-Guyon et dans 200 jardins de la région.
Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Marie-Laure Adjé.
Merci à vous.
Bon week-end, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Pourquoi je dis bon week-end, on est jeudi. C'est parce que ça se précise de plus en plus.
Vous revenez demain, vous
savez ça. Je reviens demain. Alors nous, on joue pour une clé USB 16 gigas. Beaucoup de place sur cette clé USB. Et dites-nous quelle partie du château de la Roche-Guyon date de l'époque médiévale. Difficile, il y a eu beaucoup d'infos dans tout ce que nous a dit notre invité. Quelle partie du château de la Roche-Guyon dans le Val d'Oise date de l'époque médiévale? Si vous avez la bonne réponse, vous nous appelez tout de suite maintenant 0810 055 056. Ensuite, on file à Nancy, on a une histoire incroyable à vous raconter.
Ah, j'aime bien ça. Non, je parle de la musique.
Ouais, l'histoire est bien aussi.
Ah, c'est fabuleux.
Voilà, un portefeuille perdu il y a 86 ans, retrouvé. On vous raconte tout, ça s'est passé à la bibliothèque de Nancy. Et là, c'est Like a Hobo.
I've always known. Since I was a young boy, in this world, everything's as good as bad. Now my father told me, always speak a true word, and
And I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be. And lies, they only stop me from feeling free. Ooh, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Ooh. Ah, 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 ah. I've never yearned for anybody's fortune. The less I have, some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a whole
J'espère que ça vous a autant plu qu'à Denis Farou qui commençait à danser sur les tables. Like a hobo.
Non, rajoutez.
C'est même
pas
renversé du café, tenez. Charlie Winston sur France Bleu pour accueillir Bernadette. Bonjour Bernadette.
Bonjour.
Où êtes-vous Bernadette?
Dans la Creuse.
D'accord, où ça dans la Creuse?
À côté de Limoges, Guéret.
Très bien. Il y a, oui, effectivement, France Bleu Creuse à Guéret.
Belle région.
Exactement. Bernadette, vous faites quoi aujourd'hui?
Je lis, je tape des textes aussi, parce que j'écris des romans.
D'accord, vous en avez écrit plusieurs déjà?
Comment?
Vous en avez écrit plusieurs, parce que vous dites des romans.
J'en ai écrit 5 pour l'instant, oui.
Publiés?
Publiés, oui, oui.
D'accord. Donc
des romans d'amour et de fiction.
D'amour et de fiction.
Voilà.
Bien.
Plutôt amour ou plutôt fiction?
Plutôt amour. Un peu fiction, pointe de fiction.
Bon, alors Bernadette, une clé USB pour mettre vos textes, ce serait pas mal.
Très bien.
Je vous demandais quelle partie du château de la Roche-Guyon date de l'époque médiévale?
Le donjon.
Oui, vous dites ça parce que vous nous avez bien écouté ou parce
j'ai
que...
J'ai bien écouté, oui, oui.
Vous connaissez pas le château de la Roche-Guyon?
Pas trop, non, non, j'ai pas visité, non.
Si un jour vous pouvez, allez-y, c'est très beau.
Oui, j'y manquerai pas.
La question, c'est est-ce qu'on peut mettre 5 romans sur une clé
USB,
France Bleu
16 gigas, je ne sais pas.
De toute façon, j'ai besoin d'un seul puisque je continue actuellement un autre.
Alors c'est parfait.
Voilà.
On vous l'envoie avec des grosses bises, Bernadette.
Comment ?
On vous l'envoie, on met des grosses bises dans l'enveloppe.
Merci
aussi.
Beaucoup, je vous remercie bien.
Bon après-midi, à bientôt.
Merci.
Au revoir Bernadette. Presque, c'est le dernier titre d'Alain Souchon et c'est en ce moment sur France Bleu. Très bon début d'après-midi.
À Lille, sur la Grand Place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face, elle a glissé l'argent sous la tasse, s'est levée, je l'ai perdu, j'aurais dû presque moi. Ces amoureux dans la cour, c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurit le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index, elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus et là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin, presque pris mon courage à deux mains. Te dire qu'à Lille, sur la grande place, j'avais ton profil de face. Presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour.
Mais ce n'est pas presque Alain Souchon, c'est bien lui que nous entendons sur son dernier titre. J'ai une info à vous transmettre, vous savez, France Bleu est la radio officielle des Restos du Cœur. Eh bien, figurez-vous que ça y est, la billetterie des concerts va ouvrir le vendredi 18 octobre. Quand je dis ça y est, vous êtes dans les starting blocks, on n'est pas encore le 18, mais c'est bientôt, c'est ce mois-ci. Ce sera à 9h en magasin et dès 10h en ligne, parce que les dates de concerts sont tombées. Donc les Enfoirés se donnent rendez-vous du 15 au 20 janvier 2020 à l'Accor Hôtel Arena à Paris. Début de la vente des place 18 octobre. Et puis une autre info, une vente aux enchères en ligne inédite d'objets emblématiques des Enfoirés. Ça, ce sera du 28 novembre au 29 décembre.
Une heure en France. Denis Farrow, Frédéric Le Ternier sur France Bleu.
Voici une belle histoire maintenant qu'on voulait vous raconter dans Une heure en France. À la bibliothèque Stanislas de Nancy, on a retrouvé cet été un portefeuille en parfait état avec les papiers à l'intérieur.
Il avait été perdu il y a 86 ans, en 1933. Le propriétaire était étudiant en médecine et il n'avait jamais signalé sa disparition.
Après recherche, la famille de celui qui l'avait perdu a été retrouvée et nous sommes avec la conservatrice de la bibliothèque Stanislas. Bonjour Claire Haquet.
Bonjour.
Comment ce portefeuille a-t-il été retrouvé? Est-ce que vous saviez qu'il était dans vos locaux depuis autant de temps?
Alors non, pas du tout. On a retrouvé cet été, donc en faisant de l'archivage de nos dossiers administratifs. Mmh. Et il est tombé au milieu des différents dossiers qu'on était en train de mettre dans des cartons.
C'est fou. C'est bien de faire le ménage de temps en temps.
N'est-ce pas?
Qu'est-ce que l'on sait de celui qui était le propriétaire de ce portefeuille perdu en 1933?
Alors à l'époque, c'était donc un jeune étudiant en médecine qui venait des Vosges et qui venait juste de s'installer à Nancy. Et puis ensuite, il a eu un destin héroïque puisqu'il a été résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été déporté et la suite de sa carrière de médecin est aussi une très belle carrière au service de l'enfance handicapée.
Qu'est-ce qu'il y avait dans le portefeuille exactement, Claire Haquet? Que des papiers ou autre chose?
Alors il y avait essentiellement ses papiers d'identité, donc sa carte d'étudiant, un permis de conduire les motocycles à deux roues, un badge de sa résidence universitaire,
Et puis une lettre qui nous a aidé justement à comprendre qu'il venait juste sans doute de s'installer à Nancy, puisqu'elle lui est envoyée par un de ses amis qui lui dit « Te voici nancéen depuis 10 jours ». Et nous sommes le 10 novembre 1933.
Et on ne sait pas pourquoi il n'a jamais réclamé son portefeuille.
On est sûr qu'il ne l'a pas réclamé d'ailleurs ?
Alors nous, on n'a rien retrouvé dans les archives. Je suppose que s'il a réclamé, il a dû se présenter à l'accueil de la bibliothèque à l'époque et demander par oral. Il a sans doute pas fait une demande écrite. Donc ce qu'on s'explique pas, c'est pourquoi ces papiers sont restés là, pourquoi ils lui ont pas été rendus. Et tout ce que je peux supposer, c'est qu'il n'a peut-être pas pensé qu'il avait perdu ses papiers à la bibliothèque.
Claire Aquet, on est comment quand on découvre un objet comme ça venu du passé? On est forcément ému, c'est très intime, un portefeuille avec des papiers d'identité.
Ah oui, c'est très surprenant. Mon premier mouvement, ça a été de penser que ce portefeuille avait pu appartenir à un membre du personnel, puisqu'on l'a retrouvé dans des dossiers. Mais le membre en question aurait été très jeune, puisqu'il aurait eu 19 ans.
Ouais.
Et donc, immédiatement, la seule autre idée qui s'est imposée, c'était que c'était un lecteur. Et ça, pour le coup, ça nous arrive à peu près toutes les semaines de retrouver des portefeuilles de lecteurs.
Ah oui, effectivement.
Mais la date 1933, c'est incroyable.
Ah ça c'est complètement incroyable, surtout qu'il était au milieu de papiers qui n'avaient rien à voir.
Et comment s'est passée la restitution à la famille, aux descendants de Jean Poirot? On n'a pas donné son nom, je crois.
Oui, c'est vrai. Alors déjà, il a fallu retrouver justement sa famille. Donc ça a été un petit peu compliqué. J'imaginais pas qu'il soit toujours vivant parce qu'il aurait eu 105 ans. Donc après une petite recherche grâce à la mairie de sa commune de naissance, Saulxures-sur-Moselotte dans les Vosges, on a pu avoir accès à son acte de naissance sur lequel était mentionnée sa date de décès. Et grâce à cette mention de décès, j'ai cherché dans les avis de décès de la presse locale, presse qui est conservée à la bibliothèque de Nancy, c'était pratique, j'ai trouvé en fait les noms de son gendre et de ses petits-enfants. Et il se trouve que, notamment, l'une de ses petites filles est une avocate à Nancy.
Ont été comment en apprenant la nouvelle?
Ouais.
Alors très 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 surpris parce que voilà, c'était une histoire qu'elles ne connaissaient pas du tout. Elles nous ont expliqué que Jean Poirot était quelqu'un de particulièrement insouciant, qui avait déjà abandonné sa voiture dans les années 50, quelques jours sur un pont de Nancy faute d'essence. Ça
collait bien.
Ça ne les étonnait pas tellement. Voilà.
Bravo en tout cas pour ce qui ressemble à une enquête policière que vous avez menée, Claire Aquet.
Hein, oui, tout à fait. C'était très, très amusant et j'étais vraiment contente de retrouver la famille de Jean Poirot.
Et merci d'être revenue sur cette histoire et de nous l'avoir racontée aujourd'hui dans Une Heure en France, Claire Aquet. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Très bonne journée à Nancy, à bientôt.
Merci.
Au revoir. Street Life! Avant de se quitter, de refermer cette heure passée ensemble en France, on a encore eu un très très beau programme aujourd'hui. Moi, ça me touche beaucoup, cette histoire de portefeuille. Allez, on en reparle juste après Street Life.
I'll play the street life because there's no place I can go. Street life, it's the only life I know. Street life, and there's a thousand parts to play. Street life, until you play your life away. You let them be. Your time.
piano là comme ça à la fin, hein, ça fait beaucoup. Street Life sur France Bleu avec The Crusaders. Une heure en France, c'est terminé. On a commencé avec une expo de produits alimentaires dégueux.
Tous plus dégoûtants les uns que les autres, mais je reconnais que le fromage de Sardaigne infesté de mouches est pas mal dans son genre.
Ah oui, il y avait beaucoup d'autres choses. Il y avait du requin fermenté, il y avait...
Testicules de taureau.
Voilà, il y avait plein de choses. C'est à découvrir à Nantes jusqu'au 3 novembre. Ça nous a bien plu, cette histoire. C'est marrant, ça fait rire. Ça rend curieux. Ensuite, on a fait une balade au château de la Roche-Guyon dans le Val d'Oise.
Avec son jardin à la française en forme de drapeau anglais avec ses 650 arbres fruitiers.
Et puis on a terminé, Denis, avec une histoire de portefeuille perdu il y a 86 ans à Nancy et retrouvé cet été, c'est incroyable.
Le portefeuille de Jean Poirot que l'on a mis sur francebleu.fr, retrouvé cet été et remis à sa descendance après une belle enquête, il faut bien le reconnaître, de la conservatrice de la bibliothèque Stanislas à Nancy.
On revient demain 13h, Denis.
Demain, c'est la vache qui rit avec le premier rendez-vous des vaches qui rifilent à Lons-le-Saunier.
À demain.